Bonjour, et nous sommes à nouveau dans la médiathèque de l'Institut universitaire de formation des maîtres de l'Académie de Lyon, sur le plateau de la Croix-Rousse, dans un lieu qu'on appelle le Clos, et où nous recevons régulièrement des auteurs qui ont écrit sur les questions éducatives. Nous recevions récemment Martin Vinclair, le romancier, médecin, et nous avons la joie aujourd'hui de recevoir François Bégodeau, qui vient de publier un livre, Entre les murs, un livre qui est publié aux éditions Verticales, qui a eu beaucoup de succès, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, un livre qui parle de l'école, un livre qui parle pas seulement de l'école, qui parle aussi de l'adolescence, qui parle de la transmission, qui parle de toutes les questions d'éducation qui sont au cœur de notre réflexion. François Bégodeau, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons vous retrouver pendant une petite heure pour parler de votre livre. Je rappelle son titre, « Entre les murs » aux éditions Verticales. À bientôt, à tout de suite pour ce nouveau numéro de la Bibliothèque de l'Éducation.
Plateau numéro 2, c'est parti pour 6 minutes.
François Bégodeau, Entre les murs. Alors, à nouveau bonjour François Bégodeau, vous êtes un collègue, hein, vous êtes professeur de lettres dans un collège à Paris. Vous êtes aussi, c'est pas un secret, un spécialiste de cinéma, vous travaillez au Cahier du cinéma. François Bégodeau, votre livre « Entre les murs », il n'est mentionné nulle part si c'est un essai, un roman. Le mot « roman » n'y est pas, le mot « récit » non plus. Est-ce que c'est volontaire de ne pas avoir indiqué ce que c'était, quel genre c'était ?
Non, il se trouve que c'est une pratique propre à Verticales. On ne met jamais, même quand vraiment, de toute évidence, les livres sont des romans, on ne met pas roman.
Voilà. Et vous, c'est un roman ?
En aucun cas, c'est un essai. Hein, c'est vraiment du récit quand même. C'est de la description de faits, de situations, et je me suis bien gardé de faire un essai, justement.
Mais c'est plutôt un récit qu'un roman, peut-être,
oui,
non ?
Oui, disons une chronique. Voilà, une chronique quotidienne. Oui, c'est voilà. Moi, j'aime bien l'appeler docu-roman ou voilà, quelque chose comme ça. Docu-roman, on pourrait même mettre MENT à la fin. Si on voulait absolument créer un néologisme barbare, voilà.
Alors c'est un docu-roman, et c'est un docu-roman qui se passe donc dans un collège avec des élèves de 4e.
4e, 3e.
4e, 3e, et qui raconte un peu l'histoire des relations qu'un professeur, de lettres, alors sans doute pas vous, un peu vous quand même, entretient avec ses élèves de 4e. J'avais envie, très envie, pour démarrer cette émission et donner envie de lire le livre, que François Bégodeau nous en lise lui-même un extrait. Alors, un extrait significatif qui donne le ton. Donc, vous acceptez de nous lire un extrait, François Bégodeau ?
De bon cœur.
Allez, merci, c'est à vous.
En fait, je vais lire deux extraits, puisque donc, le livre fonctionne par petite...
Par séquence.
Par séquence, voilà. Donc je vais lire deux séquences qui sont séparées par 3 ou 4 jours. La première, le CPE Christian essayait...
Alors le CPE, pour nos auditeurs, excusez-moi, je vous couperai plus.
Ah oui, c'est pas le CPE dont on parle beaucoup
voilà,
en ce moment.
Voilà, non,
oui.
C'est pour ça que je voulais... donc pour nos auditeurs, le CPE, c'est ici, dans l'EDUCNAT, le conseiller principal d'éducation. C'est ce qu'on appelait le surgé avant, mais s'il y en a dans la salle, ils vont me honnir, parce que justement, ils ne se veulent pas des anciens surgés.
Oui, absolument.
Alors, ce n'est pas le CPE, voilà.
Le conseiller principal d'éducation, Christian, essayait tant bien que mal de tasser l'arrière de la 3e 3 parquée au pied des escaliers en attendant que se dissipe la bombe lacrymogène. Tout en manœuvrant, il a sollicité mon écoute. Il souriait, minimisant d'avance. « Il faudra qu'on se voie à midi, si tu peux. Il y a des filles de 3e qui se plaignent de toi. » Qu'ils le disent jovialement a précipité mon irritation. « Quelles filles ? Qu'est-ce qu'elles me veulent ?» Non, rien, tu sais ce que c'est, soi-disant que tu les as traités de pétasses. Mais qui a dit ça ? Sandra et Soumaya, c'est ça ? Je sais plus vraiment, il y a les 3e 1 aussi. Son ton était de plus en plus dédramatisant, je bouillais à proportion. Mais comment ça, les 3e 1, ça n'a rien à voir avec les 3e 1, cette histoire ? Je sais pas, de toute façon, tu sais ce que c'est, elles disent ce qu'elles veulent. Mais enfin, t'es pas foutu de me dire qui c'était ces 3e 1, c'est quand même dingue, ça ! Autorisé à avancer, la tête du troupeau s'ébranlait bruyamment. Christian est reparti officier comme cow-boy. S'agitant en bordure de la masse, Sandra l'électrisait. Je l'ai presque attrapée par la doudoune. « Viens me voir un peu, là. » Mon regard devait être directif, car elle a obtempéré sans se récrier. « J'apprends que tu vas te plaindre de moi au CPE. Bravo, merci pour tout. » Elle a bégayé fautif. « Ben ouais, quoi. Ben, tu pouvais pas venir t'expliquer directement avec moi ? Ben, c'est parce que vous nous avez insultés de pétasse. » Ah, d'abord, je vous ai pas insulté de pétasse, comme tu dis, et ensuite, la moindre des choses, c'est d'abord de venir me voir pour qu'on s'explique. Ben, nous, quand les profs ils se plaignent, ils vont voir le CPE. Je vois pas pourquoi on n'irait pas le voir quand vous faites des choses pas bien. Ah ben non. C'est pas si logique comme raisonnement. Ça marche pas forcément dans les deux sens, figure-toi. J'avais très nettement haussé le ton. Un groupe s'est formé autour de nous, où figurait Soumaya, qui laissait Sandra essuyer seule mes tirs. C'est normal que nous aussi on fait ça quand on n'est pas content, sinon c'est trop facile. Bah, et qu'est-ce que t'en attendais ? Bah, à quoi ? Bah, on allait voir le CPE, vous attendiez quoi ? Qu'ils me punissent ? Bah non, je sais pas. Bah vous attendiez quoi? Bah rien, c'était pour le dire, c'est tout. Vous attendiez qu'ils me punissent. Bah encore, faut pas vous plaindre, hein, parce que nous, au début, on voulait le dire aux parents. Mais fallait le faire, pourquoi vous l'avez pas fait? Je les attends, vos parents. Oh là là, dites pas ça, hein. Mon père, il apprend que vous m'avez insulté de pétasse, il vous tue, hein, je vous jure sur la vie de mes enfants de plus tard. Hein. J'avais la bouche pâteuse d'avoir peu dormi, mais ça mitraillait. Premièrement, on dit pas insulté de pétasse, on dit insulté en disant que vous étiez des pétasses. Ou alors on dit traité de pétasse, mais insulté d'eux, ça se dit pas. Commence par apprendre le français si tu veux t'en prendre à moi. Deuxièmement, je vous ai pas traité de pétasse, j'ai dit que vous avez eu une attitude de pétasse, ça n'a rien à voir. T'es capable de comprendre ça, oui ou non? De toute façon, tout le collège est au courant. Hein. Mais au courant de quoi? Bah que vous nous avez insulté de pétasse. Je criais à voix basse, dents serrées. Je vous ai pas traité de pétasse. J'ai dit qu'à un moment donné, vous aviez eu une attitude de pétasse. Si tu comprends pas la différence, t'es complètement à la rue, ma pauvre. Ah, vous savez, c'est quoi une pétasse? Bah oui, je sais, c'est quoi une pétasse. Et alors, la question se pose pas, puisque je vous ai pas insulté de pétasse. Bah pour moi, une pétasse, je suis désolé, mais c'est une prostituée. Hein. Bah c'est pas du tout ça, une pétasse. Bah c'est quoi alors? Mon débit s'est un peu enrayé. Bah une pétasse, c'est une fille pas maline qui ricane bêtement. Et vous, au conseil d'administration, à un moment, vous avez eu une attitude de pétasse. Quand vous êtes esclaffé, c'était comme des pétasses. Et pour moi, c'est pas ça. Hein. Pour moi, une pétasse, c'est une prostituée, monsieur. Elle a pris à témoin le cercle de filles qui, béates, me regardaient postillonner depuis 5 minutes. Ah, les filles, pétasse, ça veut dire prostituée ou quoi? Toutes ont acquiescé. J'ai pivoté sur place pour m'engouffrer dans l'escalier. Tout de suite, mes yeux ont piqué. Et puis donc...
Un peu plus tard... 2 jours après.
Il faudrait que je le retrouve, d'ailleurs. Est-ce que j'ai... C'est 97.
Alors, pendant que François Bégodeau cherche la suite de cette histoire, qu'il va nous retrouver...
On se demande ce qui va se passer.
La fin de cette histoire, on se demande ce qui va se passer. Vous faites durer le suspense.
Voilà,
c'est ça. Vous avez trouvé la bonne page, c'est à vous.
Donc c'est oui, 3 jours après, on va dire. Avant de sortir, Sandra a déversé quelques volts sur le bureau. Monsieur, c'est du narratif, La République? Bah, tu veux dire La République, le livre? Bah ouais. Bah comment tu connais ça, toi? Bah je suis en train de le lire.
Non.
Bah si, pourquoi? Bah qui c'est qui t'a conseillé ça? Bah c'est ma grande sœur. Elle fait de la philo, ta grande sœur. Ah non, elle est biologiste. Ah bah c'est bien, ça. Alors c'est du narratif, moi, monsieur, La République? Bah non, en fait, ce serait plutôt de l'argumentatif. Ah, bah tu vois qui c'est, Socrate, le type qui parle tout le temps, là? Oui, c'est tout le temps lui qui parle, c'est trop marrant. Bon, en fait, lui, c'est un personnage inventé, en fait, on sait pas trop. Donc là-dessus, on peut dire que c'est comme un personnage. Il a un peu existé. Ben oui, mais non, enfin, c'est pas le plus important. Le but, c'est surtout qu'il parle de plein de choses avec les gens qu'il rencontre. Ah oui, il arrête pas, c'est trop bien. En fait, Socrate, c'est un type, il arrive sur l'Agora. Bon, l'Agora, c'est une sorte de place où ils sont tous. Et là, il écoute les gens et après, il leur dit: Hé, toi, qu'est-ce que tu viens de dire là? T'es sûr que c'est vrai ce que tu viens de dire? Des choses comme ça, quoi. Ah oui, c'est comme ça qu'il fait, j'adore. Et bon, voilà, ils discutent et on peut dire que c'est comme de l'argumentation. Ah, d'accord. Mais c'est vachement bien que tu dises ça, dis donc. Tu comprends ce que tu dis? Bah oui, ça va. Merci, monsieur. Au revoir. C'est bizarre parce que c'est pas fait pour les pétasses d'habitude, ce livre. Elle a souri en se retournant. Ah bah si, comme quoi.
Merci François Bégodeau de cette lecture de 2 petits extraits de votre livre et nous vous retrouvons dans quelques instants pour en parler plus longuement.
Date numéro 3, c'est parti pour 7 minutes.
Non, il faut que vous me retranchiez. Le débord.
C'est bon.
C'est parti pour combien? Non, parce qu'on a fait, à mon avis, 15 de plus. C'est 5,45, là, à mon avis.
Ah non, j'ai 1 minute de plus sur mon chrono.
1 minute 15. Non? Vous êtes sûr? 7,06.
Donc, 1 minute 06 de plus.
Donc, une moins. Donc, il faut qu'on fasse...
14,54. Non.
6,50.
OK.
Non, mais c'est moi. Vous vous en occupez pas du tout. Hein.
Non, mais si.
Non, arrêtez. Vous me dites...
Plateau numéro 3, c'est reparti pour 6.
La Bibliothèque de l'Éducation reçoit François Bégodeau pour Entre les Murs, un livre au plus près, au scalpel, si on peut dire, sur ce qui se passe aujourd'hui dans un collège. Alors, vous avez entendu l'extrait, ces élèves qui vont protester auprès du conseiller principal d'éducation parce que leur professeur, peut-être vous, François Bégodeau, les a insultés de pétasse. Bon, à partir de là, première question, est-ce qu'un prof, ça a le droit quand même de dire pétasse à une de ses élèves comme ça?
Bah, je dirais a priori non, et en même temps, disons qu'il se trouve que c'est, je raconte là un incident qui m'est arrivé. Bon, alors je le romance un tout petit peu, mais à peine, comme tout ce que je fais dans le livre. C'est un écart de langage, et dans l'absolu, on ne devrait pas prononcer ce mot auprès d'élèves, et surtout pas quand c'est dirigé contre eux. Cela dit, il se trouve que ce jour-là, au conseil d'administration, parce que je n'ai pas lu la scène qui précède, ces deux élèves qui sont au conseil d'administration, elles ont été élues, elles s'y sont présentées, se mettent à s'esclaffer. Et on est très gêné dans cette situation-là, parce que dans un conseil d'administration, les élèves sont vraiment à égalité. Hein. C'est des citoyens au même titre que les profs.
En
principe, bien sûr. Mais en principe, justement. Mais en principe, quand même. Et donc, il est assez compliqué d'aller leur faire remarquer qu'il ne faut pas qu'elles se comportent comme ça, puisque précisément, dans ce cadre-là, on ne fait pas peser l'autorité habituelle. Donc, ça a posé un vrai problème. Donc, j'étais encore pris dans ce moment de gêne. Et le lendemain, je les ai en cours et je leur dis, oui, là, ouais, je trouve que c'est une attitude de pétasse, quoi. Alors moi, j'entends par pétasse, bon, un truc plutôt gentil, qui est une dinde, en fait, quelqu'un qui s'esclave bêtement, voilà, comme peuvent faire les adolescentes, parfois. Le pendant masculin étant beauf, quoi, enfin, ou quelque chose comme ça. Et donc, elles m'en veulent parce qu'elles n'entendent pas le mot de la même façon. Et c'est là, enfin, le livre fonctionne beaucoup sur des malentendus, comme ça, sur des défauts de traduction, sur des pertes dans la traduction, quoi. Et en même temps, alors pour finir là-dessus, je pense que de leur dire qu'à ce moment-là, elles ont eu pour moi une attitude de pétasse, j'assume totalement cette attitude parce que pour moi, c'est aussi prendre à égalité les élèves que de leur parler comme parfois on pourrait parler à des amis.
Oui, mais c'est une fausse égalité parce que vous n'êtes pas une élève. Vous n'êtes pas un élève, vous êtes prof. Donc quand vous dites à un élève pétasse, une élève pétasse, elle peut le vivre comme une vraie humiliation.
Probablement, mais alors dans ce cas-là, il faut bien expliquer ce qu'on a voulu dire par là, ce qui donne lieu à la scène que j'ai lue, et on voit bien que finalement, on n'arrive pas à se comprendre. Donc à ce moment-là, je me dis que de toute façon, j'aurais pas dû parler comme ça, puisque ça ne pouvait pas être compris par l'élève. Mais encore une fois, dans l'idéal pédagogique auquel on essaie d'accéder, je pense que le prof n'est pas forcé de se priver de ce genre de mots. C'est comme... Je pense que ça fait aussi partie d'une remise à niveau, d'une remise à égalité des profs et des élèves, que parfois ils se parlent comme ça, sans, de façon intransigeante, quoi. Paradoxal. Enfin, moi, c'est toujours l'exemple que je prends, c'est quand vous avez en face de vous quelqu'un qui fait une faute de français à l'oral, ça peut arriver, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui. En quoi consiste le réflexe égalitaire? Ça consiste à lui faire remarquer ou pas? Ben, moi, je pense que le réflexe égalitaire consiste à lui faire remarquer. Ce qui ne veut pas dire que je le fasse, parce que c'est très gênant, ça fait un peu fat et pédant, et puis moi-même je fais des fautes de français. Mais le sentiment égalitaire, c'est toujours postuler l'égalité, et que donc on est tous tenus de parler français. On est tous en tout cas capables de le faire, et que donc je suis un démocrate en faisant remarquer à autrui qu'il vient de faire une faute. Et non pas l'inverse. L'inverse, c'est plutôt, disons, poser définitivement qu'il y a des inégalités. Bah oui, ah, il fait des fautes de français, mais tu comprends, vu ce qu'il est, hein, voilà. Et je pense que PETA, ça rentre un tout petit peu dans cette logique-là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, je le vois bien.
Si, je suis un peu d'accord avec vous, mais je me dis en même temps, ça a quand même un peu une connotation sexiste, non ?
C'est de pas... son point de vue à elle. De toute façon, les PETA sont des prostituées. Donc effectivement, elle pense que c'est sexiste. Enfin, elle se sent blessée comme fille, bien sûr. Et bon, mais là-dessus, il y a malentendu, parce que de mon point de vue, ça ne l'était pas.
Moi, je suis assez d'accord qu'il faut qu'il y ait des moments comme ça d'authenticité. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce que vous dites, c'est ce temps pour éclaircir les malentendus. Ça, je trouve que c'est important. On ne peut pas, sans doute, éradiquer totalement les malentendus dans les relations entre personnes, et a fortiori entre prof et élève. S'il n'y avait plus de malentendus, alors il n'y aurait plus de langage, il n'y aurait plus de discours. Si on était transparents les uns aux autres, on s'ennuierait mortellement. Mais que le prof entende qu'il peut y avoir des malentendus, moi, ça me paraît déjà une belle chose, ça, et qu'il peut... travailler sur ces malentendus. Il y a beaucoup d'exemples dans votre livre de ces malentendus autour du langage. C'est un livre sur le langage aussi, hein.
Ah bah absolument, ouais. C'est un livre dont la matière première est le langage.
Dont la matière première est le langage. Ouais. Et un langage... Alors vous dites, vous les faites parler français. Alors c'est pour ça que j'ai un peu tiqué tout à l'heure quand vous avez dit faut corriger les gens qui ne parlent pas français, parce que vous, alors, pour le coup, dans votre livre, vous ne les corrigez pas, les gens qui ne parlent pas français. Hein. C'est-à-dire que le coup, on est dans un livre où il y a une sorte de discours... qui est le discours de l'élève de 4e et de 3e, brut de découvrage. Et le lecteur qui lit ça, alors là, je suis un peu ennuyé par rapport au prof de français que vous êtes, il se dit que ce discours, il est bien quand même, et que d'une certaine façon, vaut mieux que vous ne l'ayez pas corrigé.
Ah mais moi, de toute façon, après, enfin, je veux dire, c'est toujours, je suis un peu schizophrène en écrivant ce livre, parce qu'à la fois, je suis prof, et en même temps, là, je suis écrivain, bon. Et y a les yeux d'écrivain, puis il y a les yeux du prof. Alors, les yeux du prof de français, c'est vrai que quand, par exemple, à l'écrit ou dans une rédaction, un élève oublie le « ne », il dit « j'aime pas », et plutôt que « je n'aime pas », et bien, dans la marche, je mets « oralité », à corriger, remettre le signe de la marque de négation. Et moi, j'ai pas arrêté. D'ailleurs, une élève qui a lu le livre me l'a fait remarquer. Ah, vous emmerdez pas, monsieur Bégodeau, vous arrêtez pas de nous corriger.
Les nœuds et tout ça. Hein.
Mais parce que là, c'est les lunettes non plus du prof, mais de l'écrivain. Mais moi, il se trouve que j'adore la langue orale. Et je dirais peut-être a fortiori la langue orale de ces élèves-là, que je trouve hyper dynamique.
Vous nous la faites aimer en plus, cette langue orale, parce qu'elle est d'un dynamisme. Ouais. Ça pète dans tous les sens, ça se lit à toute vitesse. Il n'y a pas de virgule, il n'y a rien. Où il y en a très peu, il y a on élide en permanence le J apostrophe, je veux, je suis, etc. Ça donne un livre d'un dynamisme extraordinaire, et en tout cas, qui donne, pour ceux qui connaissent un peu les collèges, le sentiment d'être complètement immergé dans la vie d'un collège, d'être vraiment au quotidien de cette vie-là. Mais on va reparler d'ailleurs plus longuement de cette vie du collège et du prof dans ce collège, dans un instant, à tout de suite pour la suite de notre rencontre avec François Bégodeau. Alors François Bégodeau, entre les murs de l'école, entre les murs de la classe, entre les murs du couloir, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cours de récréation. On est pour l'essentiel entre les murs. Et entre les murs... dès le début du livre, on se demande, et vous le faites dire à votre héros, c'est peut-être vous, si ça n'est pas la guerre. Hein, vous vous souvenez sans doute de cette phrase, après qu'un élève, vous soyez un petit peu accroché avec lui, vous lui dites, parce que si c'est comme ça toute l'année, ça va être la guerre et c'est toi qui vas perdre. Soit c'est la guerre et ça va être un cauchemar pour toi, soit tu fais les choses bien et ça se passera bien. Bonne fin de journée. Merci, au revoir monsieur. Alors, vous avez eu le sentiment, il y a des jeunes profs dans la salle, et puis il y en a beaucoup qui vont vous écouter et vous lire, qu'entrer dans une classe, c'est entrer sur un champ de bataille.
Non, non. Puis en plus, j'en ai assez de ces métaphores guerrières, justement, qui je crois sont approximatives, et elles sont nuisibles. Puisque je pense que les profs qui sont amenés à s'exprimer dans les médias, et ça peut arriver à n'importe quelle occasion, soit qu'ils aient écrit un livre, soit qu'ils sont en train de manifester, et donc on les interroge, je trouve qu'ils sont, ils sont irresponsables. Ils ne mesurent pas à quel point leurs propos vont être instrumentalisés. Et je voyais, par exemple, récemment, des enseignants de Seine-Saint-Denis qui s'étaient mis en grève pour obtenir un certain nombre de choses parce que la DHG, c'est-à-dire le nombre d'heures qui leur sont allouées, avait baissé, etc. Il y avait un reportage d'une émission, enfin, je pense, d'un journal, à mon avis, de France 2. Et ils étaient interrogés. Et il y avait cette jeune prof, 30 ans, prof de français en Seine-Saint-Denis, qui disait « Quand je rentre dans ma classe, j'ai peur ». Bon, c'est sans doute vrai, mais il ne faut pas le dire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut mentir. Pourquoi il ne faut pas le dire? Parce que, du coup, moi, tous les gens que je rencontre qui habitent intramuros, qui habitent Paris-Centre, mes amis bourgeois, mes amis qui n'ont aucun rapport avec l'enseignement, ils se font. Et c'est des gens qui peuvent être complètement de gauche, je veux dire, pas forcément des réacs crispés, quoi.
Fausse,
ils se font une image, mais pour eux, c'est l'apocalypse, la banlieue, telle qu'elle est reflétée par les médias. Et puis pas seulement. Encore une fois, on dit les médias, les médias, les médias, mais les médias, c'est aussi certaines personnes qui parlent dedans. Et par exemple, ces profs. Et puis, par ailleurs, je pensais aussi aux élèves. Un élève tombe sur ce reportage-là. Et il s'aperçoit de quoi ? Ce dont il s'aperçoit en entendant les profs parler ici ou là, ou tous ces reportages qu'on voit, qui durent 6 mois, on s'implante dans un collège. On n'arrête pas de voir à la télé des profs qui nous disent « j'ai peur d'aller en cours ». Mais quand les élèves voient ça devant leur poste, ils se disent « les profs, ils ont peur de nous, quoi ». Et donc, ils ont complètement assimilé ça, et ils jouent beaucoup sur la peur. Donc moi, je me suis bien gardé depuis 2 mois que je tourne un peu dans les médias ici ou là, j'essaie de pacifier un peu, quoi. Et là, quand je fais dire ça à mon prof, comme je me fais dire ça, je me moque de moi-même d'une certaine manière, parce que c'est moi-même qui ai assimilé le côté ça va être la guerre, et là je me comporte comme un matamor, et je fais mon petit coq.
C'est la guerre, mais ça va être un cauchemar.
Je suis un peu ridicule, quoi. Je veux dire, je fais mon sœur, yes sœur, quoi. On dirait un adjudant-chef, enfin, c'est ridicule. Parce que, cela dit, on sait très bien qu'au début de l'année, il faut un peu marquer son territoire, et il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, j'exagère, parce que moi-même, j'ai peur en arrivant en cours. Et donc,
Mais il
ne faut pas le dire.
Mais il ne faut pas le dire. Alors, changeons de métaphore, mais vous ne l'utilisez pas. C'est pas la guerre, et on n'a jamais suffisamment précisé qu'effectivement l'école n'est pas un champ de bataille, et que dès lors qu'on entre dans une relation comme vous le faites avec les élèves, ça n'est plus une bataille, c'est une toute autre chose, c'est une rencontre, et une rencontre imprévisible, imprévue, et pleine d'événements sensationnels, formidables, rigolos. Mais quand même, on se demande de temps en temps si votre héros ou vous-même, c'est pas dans la cage aux fauves que vous entrez. Alors cette métaphore-là, elle est un peu plus pertinente ou vous la récusez aussi ?
Je pense qu'elle est encore hyperbolique, on dirait,
hyperbolique.
Si on était prof de français. Comme souvent, j'ai remarqué que souvent les métaphores sont hyperboliques. Voilà, c'est une parenthèse. On exagère, on est un peu tous marseillais.
C'est
pas la cage aux fauves, c'est une zone de tension. Mais tension, pas au sens conflictuel, mais au sens électrique du terme. Il y a de l'électricité dans une case. Moi, c'est pour ça que j'aime ce métier, et c'est pour ça qu'à mon avis, le livre est dynamique, parce qu'il a emprunté son énergie à l'énergie qui circule en classe, quoi,
et
qui
vient essentiellement des élèves. On peut faire de la GGN, mais on peut faire aussi de la lumière.
Eh ben, on fait les deux.
Ouais. Et vous
assez peu la GGN, quand même, dans mon cas. Je torture peu les élèves, j'ai arrêté, parce que ça...
Ouais, vous les traitez de pétasse, mais vous n'allez pas au-delà.
Ouais. Hein. J'ai arrêté la torture physique, disons.
Vous avez arrêté la torture physique depuis déjà un certain temps, mais vous essayez de faire de la lumière avec de la tension. Alors ça, c'est quand même intéressant. Vous essayez de faire émerger des choses. Alors, la République de Platon qui débarque à leur milieu... ça vous surprend, vous, que vos élèves lisent La République de Platon ?
Je dois dire, quand même, c'est quand même surprenant à plus d'un titre, parce que non seulement mes élèves ont tendance à pas beaucoup lire, même si certains lisent beaucoup, et alors, a fortiori, en troisième, La République de Platon. Moi, j'ai lu La République de Platon en terminale. Moi, qui étais un bon élève, comme ça, bourgeois...
Donc le niveau monte plus tôt, là.
De ce point de vue-là, oui, mais Massandra, elle est formidable, Massandra.
Mais le niveau monte globalement. Moi, je me souviens que mon père lisait Bibi Fricotin, moi, je lisais Club des Cinq, aujourd'hui, il lise Harry Potter. C'est quand même... De ce point de vue-là, en termes de tirage, on s'aperçoit que c'est pas aussi catastrophique que ça. Et alors, vous êtes prof de français. On vous voit à l'œuvre comme prof de français, et c'est important parce que beaucoup des livres qui sortent sur l'enseignement, on ne voit pas l'acte pédagogique lui-même. Hein. On voit tout un tas de choses qui se passent dans la cour, on voit des conflits qui sont très ciblés, des agressions, des violences, mais l'acte pédagogique au quotidien, ce qui se passe entre les murs de la classe, c'est un peu passé à l'as. Vous en parlez, vous parlez des exercices que vous faites faire, vous parlez... Alors, de prof de français à prof de français, vous ne parlez pas beaucoup des textes et des œuvres sur lesquelles vous travaillez avec vos élèves. Vous ne les citez pas beaucoup.
Non, alors le fait de ne pas les citer, ça rentre dans une économie littéraire, disons. C'est-à-dire que mon but est de mettre à plat tous les textes. C'est-à-dire que de mettre sur le même plan, ce que j'appelle un travail démocratique, le même plan, la parole des profs, la parole des élèves, la narration, et puis aussi les textes qui sont cités. Parce que parfois, je rapporte des phrases tirées d'eux.
Vous allez vous faire flinguer, là. On va dire que vous mettez Victor Hugo sur le même rang que le rap et tout ça. Hein. Voilà. Ça va être terrible, là. Hein.
Mais
Je vous conseille l'armure, là.
C'est-à-dire, je pense qu'il y a...
Sortez dans la société désagrégée ou ailleurs.
Il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que je pense qu'un texte de Victor Hugo est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux écrit que, par exemple, une rédaction d'élèves. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on remette les choses à plat et que, de nouveau, on essaie de s'expliquer et d'argumenter pour essayer de montrer pourquoi Victor Hugo, c'est mieux. Enfin, c'est quand même un peu plus profond que telle rédaction d'élèves. Ce que je n'aime pas, c'est les hiérarchies a priori. C'est quelque chose qui est posé comme ça, comme une évidence et un postulat, qui est « Hugo, c'est là, et puis le rap, c'est là ». Non, moi, je les mets tout à plat. Je fais mon travail démocratique, alors là, vraiment d'écrivain, pour le coup. C'est une espèce d'usine à langage complètement égalitaire. Et puis après, on va s'expliquer. Et puis, on essaiera d'expliquer pourquoi tel texte de This is la peste, c'est quand même un tout petit peu plus faible que Victor Hugo. Mais il va falloir l'expliquer. Le poser comme une évidence, c'est se comporter comme une espèce de penseur aristocratique. Comme si, tout est discutable. Et puis, va savoir s'il n'y a pas des textes de This is la peste qui sont un peu plus intéressants que telle page d'Hugo. Je relisais le dernier jour d'un condamné là, pour l'étudier avec mes troisièmes.
Des fois, ça tombe des mains.
Oh là là, oui. Alors que Claude Gueux est un chef-d'œuvre, vraiment, pour parler d'équivalent.
Mais il y a quand même de chouettes trucs dans Victor Hugo.
Ça reste un bon... Moi, je crois en lui. Hein. Il ira loin.
Il a un peu d'avenir.
Il a le concours dans 5-6 ans, je dirais.
Il aura le concours dans quelques années. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous montrez justement que ces textes ne sont pas des espèces d'universels a priori. Ils ne deviennent universels que par le travail pédagogique que vous faites sur eux, que parce que les gamins, ça leur parle. Et c'est au moment où ça leur parle que ça devient des grands textes. Et c'est parce que ça leur parle que ça devient des grands textes.
Si on se met à arriver en classe et qu'on leur dit, vous voyez, alors ça, attention, hein, ça c'est un texte de Victor Hugo, attention, respect les gars. Ça c'est de la grande littérature. Vous allez prendre un putain de pied là, parce que c'est quand même du texte. Hein. Si on leur dit ça, on les plombe d'entrée, quoi. Ils sont là, et alors soit au contraire ça les rebute, comme tout ce qui papier institutionnel, soit ils se disent « Ah, ouais, c'est vachement bien », mais le problème, c'est qu'ils ne ressentent pas ce plaisir-là à la première lecture. Donc, ils se sentent en faute, d'une certaine manière. Donc, il y a un divorce qui se crée. Moi, je préfère donner le texte « Bon, voilà, c'est Victor Hugo, c'est 19e siècle, et puis voilà, allez, on lit. »
C'est quand même Victor Hugo pour les élèves, c'est quand même essentiellement une station de métro, un boulevard.
Oui, de fait, oui.
Après, on découvre que derrière, il peut y avoir quelqu'un qui a écrit un bouquin. On vous retrouve dans quelques instants pour continuer sur Victor Hugo et deux ou trois autres choses que François Bégodeau. C'est de l'école. À tout de suite.
Il faudra un lasso.
Alors, François Bégodeau, entre les murs de la classe, vous avez, on l'a vu, une relation avec les élèves qui est une relation... Alors, certains vont dire un peu démago quand même, non ? Vous n'avez pas peur qu'on vous traite de démago ?
Moi, ça m'intéresse toujours beaucoup, cette histoire de démagogie, parce que... qu'est-ce que c'est que la démagogie ? J'en propose une définition complètement sauvage. C'est quand un orateur, par exemple, adopte un certain nombre de discours auxquels il n'adhère pas lui-même, mais parce qu'il sait qu'il caresse dans le sens
que
du poil son
et
auditoire, etc.
Bon, moi, c'est vrai, les gens.
Il m'arrive de parler de foot avec mes élèves, ce n'est pas de la démagogie, puisque j'adore le foot, j'ai même fait mon premier roman autour du foot. Il m'arrive de parler de rap avec mes élèves, ce n'est pas de la démagogie, puisqu'il se trouve que j'en écoute un peu et que j'aime plutôt ça. Il se trouve que je parle à mes élèves comme je parlerais, voilà. Alors, par contre, la démagogie, il peut y avoir des glissements démagos, mais je me demande si, quand on est pédago, il ne faut pas être parfois un peu démago, un tout petit peu.
Allez, trop loin, parce que là, on est déjà mal
je
vu les pédagogues, alors si
bien.
Vous nous dites que... Bon. Alors, peut-être pas tout à fait dans la même veine, mais presque, est-ce que vous n'avez pas le sentiment à certains moments que vous en faites un peu trop dans la proximité ? C'est-à-dire qu'au fond, vos élèves, ils ne vous demandent pas tellement de vous intéresser d'aussi près à eux, au point que Sandra, justement, qui remonte sa grosse ceinture au-dessus de son bourrelet, là, on a l'impression que Sandra, elle n'est pas très, très... Bon. Elle dit quand même... Ça, monsieur, c'est notre vie. Il y a un moment où l'élève, il n'a pas tellement envie que le prof, il vienne s'occuper de ses affaires, quand même. Vous, est-ce que vous n'êtes pas un peu... Vous n'avez pas un peu trop vous infiltré dans la vie de ces élèves-là qui, au fond, préféraient que vous soyez un prof un peu plus distant ? Bon, ben, ah, monsieur Bégodeau, non. Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop dans la complicité ? Y compris contre la vie des élèves.
Honnêtement, là, sur l'ingérence dans la vie, dans le livre, il n'y a aucun document qui aille dans ce sens-là. Et d'ailleurs, même mon parti pris de départ d'être entre les murs, c'est-à-dire de, à aucun moment évoquer. Voilà, va bien avec la façon dont je fonctionne comme enseignant, où en général, je ne m'enquière pas beaucoup de la vie de mes élèves, sauf devant accident, enfin, quand il y a des choses graves qui se passent. Et là, il y a nécessité de le faire.
Donc et finalement, quand vous demandez là aux élèves si elles se sont réconciliées, puisqu'elles étaient fâchées pour une affaire de copains, elles vous disent, ça, monsieur, c'est notre vie.
Oui, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi je leur demande ça d'ailleurs, mais ça m'intéresse un peu, des fois on essaie de voir un peu ce qui se passe entre eux. Mais honnêtement, moi je ne suis pas très dans l'ingérence et à aucun moment, je me suis beaucoup surpris moi-même, c'est-à-dire que très très vite, un prof qui débute, il veut être aimé par ses élèves, ça c'est vrai. On veut être
mais
aimé.
Même un vieux prof,
je trouve un peu moins, non, honnêtement, moi je trouve que ça fait 10 ans que j'enseigne, fait 9 ans.
Mais il y a une volonté de ne pas être aimé qui est une manière de vouloir être aimé autrement, hein.
Moi, pour ce qui me concerne, je me suis beaucoup calmé. Vraiment, au départ, tous les signes affectifs qui nous viennent des élèves sont vraiment, on les considère vraiment. Et il y a quand même un moment où on voit bien que ce n'est pas le problème. Et j'aurais tendance à conseiller de mettre à distance ce genre de choses.
Bon, monsieur Bégodeau, vous êtes formidable parce que vous êtes arrivé à un moment de sagesse où vous n'avez plus envie d'être aimé des gens. Moi, je vous admire. Mais néanmoins, ce désir de ne pas être intrusif, on l'entend bien, mais est-ce qu'il n'entre pas en contradiction avec le désir de relier quand même l'intime et le littéraire, l'intime et la littérature ? Parce que vous, en tant que prof de lettres, votre travail, c'est aussi de faire résonner ces textes par rapport à l'intimité des élèves. Et l'élève, lui, il risque de vivre ce que vous lui apportez, c'est-à-dire le scolaire, comme quelque chose qui est un autre monde. Est-ce que... Il n'y a pas là à la fois une chance et une difficulté qui est de faire s'interpénétrer le monde de la culture et le monde de la grande culture et le monde des ados.
Oui, mais ça ne se joue pas. Je ne crois pas que ça se joue dans la connaissance de ce qui est la vie des gens que j'ai en face de moi.
Privée.
Ça se joue plutôt... Alors ça, c'est ce que j'ai tendance toujours à
à essayer de conseiller à mes amis qui débutent dans le métier, enfin qui sont pas beaucoup plus jeunes que moi, mais quand même. Et je leur dis, vous allez essayer de transmettre des choses quand même à vos élèves, parce qu'il s'agit quand même, entre autres, de transmettre. N'oubliez pas de vous enquérir de ce qui est le champ culturel de vos élèves. Ce qu'on lui suppose. Si vous avez un peu de temps, écoutez Skyrock une petite heure. Si vous avez un peu de temps, même radio, si ça ne vous est pas naturel, ou Fun Radio, ce genre de choses, regardez un peu les médias dits pour jeunes. Si vous en avez...
regardez un peu les mangas, les choses comme ça, les jeux vidéo. Essayez de vous intéresser un peu à ces choses-là.
Ce qui fait que du coup, on va pouvoir créer des analogies. On est en train... Alors là, c'est là que peut-être sans doute les réactionnaires nous traiteraient de démagos. C'est-à-dire qu'on va, à partir d'un texte d'Hugo, un peu le Hugo définitivement quoi, aujourd'hui...
Bon, c'est un générique.
Voilà, Hugo étant l'écrivain, peut-être qu'on peut créer des analogies avec, par exemple, tel film dont on sait qu'il a été beaucoup vu ces dernières années par les adolescents et qu'on aurait peut-être vu soi-même. Allez, je pense qu'il est vraiment très très bon pour un pédagogue de s'enquérir lui-même de la culture des gens qu'il a en face de lui, plutôt que d'attendre désespérément que eux viennent vers lui, alors que bon, ils y viendront pas comme ça, quoi. Donc il faut créer des connexions. Et moi, je suis pour la politique de l'analogie, y compris les analogies que, encore une fois, nos réactionnaires trouveraient dégradante et injurieuse par rapport au patrimoine culturel français, quoi.
Parce que ces analogies sont aussi une manière d'entendre les préoccupations de l'autre et de les prendre au sérieux, de lui dire ça peut résonner avec d'autres choses. Au fond, ton affaire de jeux vidéo, il y a un vieux qui s'appelle Oedipe, il y a déjà quelque temps, il a eu des problèmes un peu de ce type-là.
Oui, un gars qu'on a bien connu, là, qui s'appelait Oedipe.
Ouais, qu'on a bien connu, vous et moi.
Il y a un exemple très frappant, c'est qu'à une époque, je me demandais ce que j'allais faire étudier comme pièce de théâtre à mes élèves une année, et puis on me disait Antigone, tu verras, ça marche, c'est génial.
Ah, ici, Antigone, à Lyon, Antigone, les gamins, ils croient toujours que c'est contre,
c'est contre eux.
Les Antigone.
Non, mais disons, donc l'Antigone d'Anouilh. Hein, et moi, je ne suis pas très fan d'Anouilh, mais peu importe. J'aime beaucoup cette pièce-là, mais je me disais, mais comment ça se fait que ça marche? Ça, c'est toujours les profs qui ont toujours tendance à dire « Ah, ça marche, ah, ça a bien marché », alors que ça a marché avec trois élèves, quoi. Et j'ai compris pourquoi ça marchait, entre guillemets. C'est parce que moi, je me disais, il y a des telles problématiques sur la raison d'État là-dedans. C'est vachement bien, le dialogue entre Créon et Antigone.
Elle est chiante. Enfin,
mais il se trouve que les élèves s'y identifient beaucoup parce qu'en gros, c'est une adolescente rebelle, quoi. C'est comme ça qu'ils lisent le truc.
C'est surtout une bonne fille à son papa.
Ah oui. Oui, enfin bon, c'est une bonne fille à son papa qui dit non à peu près à tout le reste du monde quand même. Voilà, donc elle est quand même aussi remontée. Et donc je pense que moi, ce qui me paraît vraiment l'aspect faible du livre, enfin de la pièce d'Anouilh, cet aspect-là, permet de faire remonter vers son aspect fort qui est qu'est-ce que c'est que le devoir de rébellion par rapport à la raison d'État, le oui, le non, enfin ce beau dialogue qu'il y a là sur 20 pages entre Créon et Antigone. Et oui, au moment où on dit oui, mais Antigone, elle est comme vous, elle est un peu ado. Bon, ben moi, je vois bien que je dégrade un tout petit peu l'œuvre d'Anouilh, mais ça va passer par là, ça va être l'embrayeur pour peut-être aller plus haut comme disait une chanson.
Comme disait une chanson, on ne citera pas la chanson. À tout de suite, dans un instant, pour continuer ce dialogue avec François Bégodeau. François Bégodeau à la Bibliothèque de l'Éducation pour Entre les Murs aux éditions Verticales et autour de nous des professeurs, des jeunes qui se destinent à l'enseignement. Marilyn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en train de préparer une maîtrise d'histoire. Oui. Vous venez d'entendre François Bégodeau nous parler de son travail de prof, de ce qu'il entend par la culture, comment raccrocher les élèves à cette culture. Alors, vous aviez envie d'intervenir?
Oui, parce que justement, j'avais lu le livre. Donc,
Ah, super. Voilà. Vous avez un bon point, là, déjà.
Voilà. Donc, en fait, je voudrais poser une question, c'est savoir si vous exercez votre métier comme vous auriez espéré l'exercer, et si vous aviez eu des déceptions ou au contraire des surprises avec...
Non, pour ce qui me concerne, je pense que je suis très peu dans... Enfin, je ne suis pas dans la catégorie des déçus, mais je crois que ça tient. Alors, ça tient à quoi? Parce que de fait, voilà, c'est évident que un des problèmes de la corporation en ce moment, c'est un énorme décalage entre la formation qu'on peut avoir et le métier qu'on va faire, entre le niveau de savoir qu'on a acquis dans nos études et puis celui qu'on va dispenser. Et ça, c'est souvent, ça génère de la mélancolie chez les profs et quelque chose comme une frustration, voire même un sentiment de déclassement.
Alors, moi, j'ai... par exemple, vous étudiez quoi en maîtrise d'histoire ? Actuellement,
j'étudie l'histoire québécoise.
Ouais. Alors, vous n'allez pas du tout enseigner ça à vos élèves, vous le savez.
Mais j'étudie l'encadrement socio-religieux, donc je vois un message qui était...
Vous vivrez ce sentiment d'avoir fait des études très hautes pour enseigner des trucs très triviaux, ce que vous dites.
Exactement, mais c'est notamment vrai avec les disciplines. Je crois que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles certaines disciplines sont plus rétives à l'innovation pédagogique. C'est celles qui sont très marquées culturellement, la philosophie, le français et l'histoire, en gros, les sciences humaines, quoi. Enfin, tout ce qui serait dans les humanités. Et souvent, les profs de français vivent très très mal le fait d'être des spécialistes de Flaubert et d'avoir appris à avoir une lecture extrêmement pointue de Flaubert et se retrouver à faire l'accent sur le A ou alors des bouquins un peu moins intéressants que Flaubert, quoi. Je crois que là, quand on commence à enseigner, il faut vraiment faire le deuil de ça et se dire, eh ben, en classe, moi c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis prof de français et non pas de lettres, surtout au collège. En classe, on va faire de la langue, alors on va s'appuyer sur des textes littéraires, éventuellement on va parler de littérature, éventuellement on va parler de culture, mais que ça va pas être ça le tout venant du métier. Et puis c'est pas grave, je rentrerai chez moi et je relirai Madame Bovary, quoi. C'est-à-dire que mais c'est vrai,
et
que si les profs,
important pour vous ressourcer de relire Madame Bovary.
Absolument, mais moi je le relis une fois par semaine, donc
Madame Bovary.
Mais
ah,
tout
ouais.
à fait, je veux ouais. dire le samedi.
Moi, mon gros problème, c'est que quand j'étais en Cagne, mon prof m'a demandé un jour si de parler de Madame Bovary, et je lui ai dit que j'avais pas lu, que j'allais lire Madame Bovary. Et il m'a dit, monsieur, à votre âge, on ne lit pas Madame Bovary, on relit Madame Bovary. Donc vous relisez Madame Bovary, vous avez compris qu'un prof de lettres relit toujours, il ne lit jamais. Merci Marilyn. François Bégaudeau, vous avez un passage dans lequel vous vous interrogez sur « Faut-il restaurer l'autorité qu'ont connue nos grands-parents à l'école ?» Et vous ajoutez « Je pense que l'on doit laisser le passé derrière nous, que les choses qui ont bien fonctionné auparavant seront peut-être moins efficaces maintenant et dans le futur. Je pense que c'est à l'adulte de s'affirmer et d'imposer ses règles selon ses valeurs et non pas au nom d'une mode qui reviendrait en force et qui consisterait à être plus sévère envers ses élèves. » Alors, on ne sait pas bien le statut de ce texte. D'ailleurs, c'est une des choses intéressantes dans le roman. C'est qu'il y a des textes qui apparaissent. Il y a une énumération de questions que j'ai retrouvées à un moment qui apparaît. Pour moi, ça dit quelque chose, mais c'est des trucs un peu étranges. Et là, il y a un statut, il y a un texte laxiste égale permissif, et puis il y a un petit développement sur l'autorité où vous nous dites « Arrêtez, les jeunes d'aujourd'hui n'accepteraient pas une telle autorité, ils ne l'imagineraient même pas. » Alors, par rapport à ceux qui veulent restaurer l'autorité, votre position là-dessus ?
Alors, sur le texte, là, il faut vraiment que je précise, parce que vous êtes tombé dans le piège en connaissance de cause. Je me garderais bien de pondre une phrase comme ça et de la mettre dans mon nom, au nom du narrateur. Il n'y a jamais ça dans Entre les murs, il n'y a jamais de commentaire. Ce que vous lisez là, c'est quelque chose que j'ai transcrit, un document qui est mot pour mot transcrit et qui est une élève qui a écrit ce texte. Et elle a écrit ce texte.
Faut-il restaurer l'autorité ?
Oui, on le comprend en lisant le paragraphe précédent, où à un moment je leur explique ce que c'est laxiste et permissif. Et je dis que c'est Alissa, qui est une des héroïnes du livre, note tout de suite laxiste permissif, puis elle est en train d'écrire
elle
un texte parce que ça lui inspire.
Elle a copié sur un bout de
carnet. Voilà. Et donc ça, je reporte après le texte
c'est
directement.
Une élève qui a écrit
c'est
ça.
Elle qui a écrit ça mot pour mot. Et je trouvais savoureux que ce soit une élève qui dise...
Elle vous dit
que,
j'ai fait une argumentation.
Qui, pour moi, qui produit ce qui me paraît le meilleur argument par rapport aux nos amis de la blouse, et nos amis du retour à la baguette et à la blouse. C'est pas que... Moi, d'un point de vue humoral, je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et un réac, j'ai envie de dire, écoute, t'es réac et pas moi, salut. Mais ce que je préfère lui dire pour argumenter, c'est, si tu veux, revenons à la blouse, revenons à l'autorité, à la papa, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que les élèves, de toute façon, ne voudront pas
c'est
ça.
C'est vous qui le dites dans le texte, c'est pas Alissa qui écrit ça.
Tout ça, c'est Alissa.
C'est Alissa, donc ça c'est quand même extraordinaire. Elle est en troisième, Alissa.
Absolument, mais c'est...
Et
c'est...
elle écrit ce développement sur l'autorité.
Et je n'ai pas changé une virgule, j'ai même gardé les fautes d'orthographe, parce que je garde les fautes d'orthographe de tous les textes que je reproduis, non pas pour me moquer, mais pour montrer que de toute façon, voilà, tout le monde en fait, et c'est comme ça. Voilà, donc c'est extraordinaire qu'une élève dise ça.
Extraordinaire, effectivement. Surtout qu'avant, il y a un dialogue assez extraordinaire sur « Il pleut des cornes » et où il se dispute de savoir ce qu'il faut dire « Il pleut des cornes » ou « Il pleut des cordes ». Et donc là arrive ce développement sur l'autorité qu'on pourrait croire sorti d'une revue pédagogique.
Absolument, à la syntaxe près, parce que c'est quand même un tout petit peu fragile comme
fin,
expression.
Ouais, ça... Alors, on a peu parlé jusqu'à présent, mais on n'a plus beaucoup de temps, des collègues enseignants. On a parlé de vous et de vos élèves, mais dans le livre, il y a les collègues, il y a une équipe. Il y a Géraldine et puis d'autres. Il y a des tas de gens dont, parler. Alors, on va en parler dans un instant, parce que les enseignants qui sont ici sont parfois un peu inquiets d'être seuls face aux élèves, et ils auront envie de vous entendre sur votre relation avec vos collègues dans ce collège. À tout de suite. Bien, nous continuons avec François Bégodeau. Nous allons parler du rapport du prof avec ses collègues, avec les jeunes profs qui arrivent, les nouveaux profs qui débarquent dans le collège. Mais auparavant, parmi les auditeurs de l'enregistrement de cette émission, Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Vous vous préparez à être professeur des écoles, vous préparez le concours de professeur d'école, et vous aviez envie d'interpeller François Bégodeau.
Voilà. Oui, j'avais une petite question pour vous. Je me demandais, on sait que les adolescents construisent une culture pour se détacher un petit peu des adultes. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois d'aller un peu trop dans leur culture, entre guillemets, de violer leur culture? Et comment vous gérez cette intensité? Savoir, est-ce qu'il y a des limites? Quand est-ce que je dois m'arrêter?
Oui, c'est intéressant ça, parce que je pense qu'il ne faut pas aller trop dedans. Par exemple, le fait de... Toujours l'exemple que prennent aussi des réacs. Ah, on va faire du rap en classe, maintenant on va étudier des textes de rap, et c'est la littérature qu'on assassine. Moi, je n'ai jamais étudié de textes de rap, y compris ceux que j'aime bien. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, les élèves m'en voudraient. Ils aiment bien qu'il y ait des marqueurs symboliques, ouais. Comme vous le dites très bien, finalement, il y a notre culture à nous. Mmh. Et ah, s'il y avait du rap en classe, du coup, elle perdrait son sens. Donc très bien. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'était connaître le rap éventuellement un peu pour parfois faire des petites analogies, faire des petites allusions alors qu'on est en train étudier Flaubert, quoi, ou des choses moins imposantes que Flaubert. Moi, je pense que c'est important. Et puis, par ailleurs, enfin, encore une fois, c'est toujours le problème de la démagogie. Moi, j'ai du mal à brider ce qui est aussi mon champ culturel à moi, quoi. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, je vais quand même pas m'interdire de parler de foot en classe alors que j'en parle tout le temps avec mes amis. Donc, moi, il faut voir. Tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur le fait que leur champ culturel n'était pas le nôtre. Mais en fait, on a quand même énormément de troncs communs. Hein. Je veux dire, ils ont, surtout quand on débute, vous allez avoir vos premiers enfants en charge à quoi, à 25 ans en général, c'est la moyenne d'âge.
Un peu plus, 26.
Bon, ben, alors c'est vrai que dans le cas des élèves de primaire, la question se pose un peu moins. Mais ma première classe, c'était une classe de seconde, j'avais 24 ans, ils en avaient 16, bon, ben, globalement. Et en plus, ils étaient, disons, sociologiquement assez homogènes par rapport à moi. Donc, j'avais pas trop de mal à parler de choses qui nous regardaient les uns et les autres. Quoi.
Alors, ça, c'est intéressant parce que je crois que votre livre, à cet égard, marque une rupture, une césure, qui est quand même le fait qu'un jeune prof assume à la fois son âge, sa culture, sans culpabiliser et sans vivre ça comme une honte au regard de ce que l'institution lui demande de faire. Et au fond, ça, c'est, je crois, assez rare dans ce qui est écrit sur l'éducation et sur l'enseignement aujourd'hui. Et c'est peut-être bien pour nos collègues profs d'entendre ça et de l'avoir en tête à travers votre écrit. Alors, on évoquait tout à l'heure les collègues. Alors, les collègues, ils n'ont pas toujours le bon rôle, hein, dans votre ouvrage. Bon, ils sont comme des collègues. Vous avez trouvé à eux du soutien, des possibilités de vous exprimer, de travailler en commun. On a quand même l'impression que vos relations sont assez superficielles avec eux. Vous ne parlez pas beaucoup des élèves autrement que d'une manière parfois vraiment très anecdotique. Vous ne parlez pas métier avec eux, en tout cas.
Oui, mais enfin, alors, c'est là que la vie s'arrête, là où commence le livre, ou inversement. C'est-à-dire que quand même, c'est un livre. Et les parties du livre qui sont les plus formelles, formalisées, les plus littéraires, disons, c'est précisément la salle des profs. Et par exemple, je n'y parle jamais dans la salle des profs. Dans le livre, le narrateur ne parle pas. Ça, c'est un choix littéraire. C'est un choix, disons, de littérature objectiviste avec un narrateur un peu muet. Il se trouve que dans la salle des profs, je suis hyper bavard, donc comme un peu d'ailleurs partout. Donc on parle. Je n'ai pas restitué un certain nombre d'échanges que je peux avoir avec mes collègues qui sont passionnants, etc., etc.
Oui, mais là, vos collègues, ils sont quand même sur le registre avec la 5e 1, la fin de semaine. Elle commence le lundi après-midi. La réunion avec les parents, c'était bien la peine. Tiens, il faudrait faire une réunion avec toute l'équipe. Ouais, il faudrait surtout faire des conseils de discipline. Et puis, non, vraiment, aujourd'hui, il y a quelque chose dans l'air, je vous assure. C'est peut-être le match. Oui, mais je les ai entendus parler Mali, je ne sais pas quoi. Mali-Sénégal, le quart de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, bon, on ne voit pas bien le rapport avec la choucroute. Enfin, vos élèves, là, ils sont...
Enfin, vos collègues.
Excusez-moi de ce lapsus. Vos collègues, ils sont un peu caricaturaux quand même, non ? Vous trouvez pas ?
Non, honnêtement, peut-être que la caricature vient du fait que je n'ai retenu que ce genre de moment par rapport à d'autres moments qui sont quand même beaucoup plus intéressants au niveau des conversations, mais ces conversations sont complètement réalistes. Il y en a même certaines que j'ai transcrites en live. L'échange sur l'astrologie, je ne l'ai pas inventé. Ils étaient 2 à 3 mètres de moi, j'étais à côté et j'ai tout noté. Ah ouais, t'es poisson, toi. Ah, ça m'étonne de toi. Ça dure... voilà. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de montrer... Et c'est pas du tout pour accabler les profs, c'est pour remettre à égalité tout le monde. Hein, il n'y a pas les élèves qui sont cons et les profs qui sont géniaux. On est tous dans des bains culturels un peu improbables. Et il y a des profs qui sont censés prodiguer l'esprit des Lumières, hein, parce que notre école, elle vient de là. Donc la raison,
et qui s'occupe d'astrologie.
Et qui s'occupe d'astrologie, c'est
et
bon
puis,
à savoir.
Nous, on a un sociologue, Bernard Lahir, à Lyon, là, que vous avez peut-être vu, qui explique qu'on peut avoir bossué sur sa table de nuit et puis être un fanatique de ses bons choix.
Absolument.
Ne pas rater un épisode de la Starac et même le suivre de nuit sur Internet. Bien, François Bégodeau, on va se retrouver dans quelques instants pour conclure. À tout de suite.
Plateau numéro 8, c'est parti.
Ah non, attendez, moi je ne suis pas prêt parce que je n'ai pas trouvé ma page.
Plateau numéro 8, c'est parti pour 3:40.
Eh bien, nous terminons cette émission avec François Bégodeau et dans la salle, Thibault. Thibault, bonjour.
Bonjour.
Vous vous occupez de dispositifs relais, c'est des dispositifs qui s'occupent de raccrocher des gamins qui sont en grande difficulté scolaire, c'est ça ?
C'est bien ça.
Alors, vous aviez envie de dire quelque chose à François Bégodeau ?
En fait, je voulais intervenir sur le titre. Écoutez les deux extraits, on a l'impression d'avoir des tranches de vie assez savoureuses du quotidien d'un collège. Mais ça tranche peut-être un petit peu avec le titre, Entre les murs, j'ai l'impression que c'est un petit peu une référence plutôt à la prison ou à l'hôpital psychiatrique. Donc c'était en fait ça un petit peu la question du rapport entre un titre peut-être et puis un contenu et l'écart.
C'est super sur le plan littéraire de terminer par le titre, terminer par une explicitation du titre, terminer de parler de livre par le titre, c'est extra, c'est bien, c'est une belle boucle.
Mais je me suis vraiment posé le problème. Enfin, en même temps, ce qui est assez, disons, symptomatique de quelle a été ma démarche, parce que quand on s'empare d'un sujet aussi pointu que celui-là, en tout cas, qui est au centre aussi de la vie politique et du débat, on fait très attention à ce qu'on fait. Donc moi, j'ai vraiment essayé en permanence d'avoir une espèce de morale de l'écriture. La morale de l'écriture, par exemple, consistant à ne pas se donner le beau rôle ou ce genre de choses. Et sur Entre les murs, évidemment, je voyais bien la connotation carcérale, mais je n'ai pas trouvé d'autre titre. Ça disait, tout mon programme était là. C'était histoire de dire, on va s'en tenir à Entre les murs. On va essayer de voir ce qui se passe enfin dedans, et notamment entre les murs de la classe. Cette espèce de grande absente de tous les livres de profs, ce qui est quand même étonnant, quoi. Les profs passent 90% de leur temps dans la classe, et quand ils écrivent des bouquins pour raconter le collège, ils parlent pas de ce qui se passe dedans. Ça va loin quand même. Alors j'ai choisi d'assumer la connotation carcérale pour faire passer ça, quoi, pour dire je serai dedans. Par ailleurs, c'était aussi une traduction, disons, potage de intramuros. C'est pour signifier que c'était un collège entre les murs de Paris, et non pas de banlieue. Et puis finalement, c'était aussi une façon de signifier qu'on est entre les murs, on est vraiment dans un lieu extrêmement circonscrit. Pas forcément très sexy. C'est pas très sexy, un collège. Surtout pas le mien, d'ailleurs, qui est très...
Dans votre livre, il y a quand même quelques jeunes profs un peu... Non ?
Ah, des jeunes profs, oui, sexy. Non, mais je parlais du lieu.
D'accord.
Il y a des êtres humains. Il y en a des beaux, des pas beaux. Enfin, bon. Mais voilà. Et je voulais montrer qu'aussi, dans le livre, on a beau être entre les murs, il y a de la grâce possible, quoi. Il y a une espèce de parabole comme ça qui dit que... L'art consiste à fabriquer de l'infini dans la matière. Voilà, ça, c'était mon programme aussi. Et l'infini, c'est tel propos d'élève, tel regard d'élève, et puis aussi parfois les profs, un peu moins.
Bon, on va être obligé de terminer, malheureusement. Moi, j'avais envie de terminer parce que ça m'a beaucoup ému. Je dis, le type m'a amusé, mais il m'a intéressé, il m'a emballé. Il m'a aussi ému, en particulier quand vous évoquez à la fin du livre ce dernier cours d'aide au travail personnel, où vous demandez à vos élèves de 4e de faire une liste de 20 choses apprises pendant leur année de 4e. Ça m'a intéressé, ça m'a ému, y compris parce que... au fond, ces élèves-là sont reconnaissants à l'école de ce qu'ils y apprennent, et vous nous montrez qu'il s'y passe quelque chose de formidable, y compris en termes d'acquisition des savoirs.
Oui, moi, là, c'est pareil. C'était aussi une hypothèse littéraire. C'était de coucher comme ça, noir sur blanc et sur une page, tout ce savoir accumulé par cinq élèves. Ils sont cinq ou six en ATP, c'est des petits groupes. Et puis, c'est vrai pour dire qu'au bout du compte, l'année n'aura pas été, l'exercice aura été quand même un peu profitable, quoi. Et que mine de rien. C'est vrai que tous les profs pesteront contre le fait qu'à chaque fois qu'on demande en début d'année aux élèves « Qu'est-ce que vous avez lu l'an dernier ?» Ils disent « Oh, on ne sait plus !» Voilà. Et donc les profs sont désespérés de voir que leurs élèves, a priori, ne retiennent rien. Mais ce n'est pas vrai. Constamment, c'est des éponges, quoi. Ils n'arrêtent pas d'absorber. Ça ressort, ça ne ressort pas. Parfois, ça ressort très maladroitement. Mais de toute façon, ils absorbent. Je trouvais, il y a un côté happy end dans ce passage-là pour dire aussi. L'année, le temps n'a pas bossé pour rien.
Voilà. Et même si c'était dur, même si parfois on a trouvé ça dérisoire, il s'est passé des choses assez formidables du côté des gamins qui ont appris. En tout cas, c'est une des choses, un peu moraliste, mais après tout, c'est pas bien grave, qui ressort de votre livre, François Bégodeau. Je rappelle son titre, « Entre les murs », publié aux éditions Verticales. « Entre les murs », François Bégodeau, merci. Merci de nous avoir accompagnés pendant ce temps. Et bon courage pour la suite. Votre livre marche très bien, mais tous les auditeurs, en plus de ceux qui sont ici dans la salle, vont aussi l'acheter. Il va marcher encore mieux. Et on lui souhaite et on vous souhaite beaucoup de succès littéraire. À bientôt.